Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. 9 groupes rebelles s'allient contre le gouvernement en Éthiopie. Libération de 6 personnes kidnappées à l'université d'Abuja au Nigeria. En Afrique du Sud, l'ANC réalise son pire score en passant sous la barre des 50%. Reportage en partie magazine de cette édition. Le Congrès américain vote aujourd'hui sur les plans d'investissement du président Biden. Également, dans un peu plus de 10 minutes, des sports. Mais d'abord, le journal. En Éthiopie, 9 groupes rebelles, dont ceux du TPLF, ont annoncé la création d'une alliance contre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed au moment où la guerre connaît une nouvelle escalade. Nous faisons le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ce front uni réunit le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, l'armée de libération Oromo et 7 autres mouvements. Il s'agit d'organisations issues de diverses régions ou ethnies de l'Éthiopie. Ce front uni est formé pour annuler les effets néfastes du pouvoir d'Abiy Ahmed sur les populations, affirment ces organisations dans un communiqué. Elles estiment nécessaire de travailler ensemble et joindre leurs forces vers une transition en Éthiopie. Le gouvernement fédéral est en guerre depuis un an dans le nord du pays contre les rebelles du TPLF qui ont progressé ces derniers mois au-delà de leur région. Ils disent avoir atteint Kémissié dans la région voisine de l'Amara, à 325 km au nord de la capitale. Ils y ont rejoint des combattants de Lola. Le gouvernement éthiopien dément toute avancée rebelle et affirme qu'il ne reculerait pas dans cette guerre. Les deux camps restent sourds aux appels des États-Unis et de la communauté internationale en faveur d'un cessez-le-feu et de négociations.
Par ailleurs, les États-Unis ont appelé aujourd'hui les Américains qui se trouvent en Éthiopie à quitter le pays dès que possible face à l'escalade. Au Soudan, la ministre des Affaires étrangères déposée par le coup de force réclame que les putschistes soient jugés par la Cour pénale internationale. Mariam Al-Sadek Al-Mahdi, fille de l'ancien premier ministre Saed Al-Mahdi, a adressé un communiqué au Conseil des droits de l'homme de l'ONU réuni en session spéciale sur le Soudan ce vendredi à Genève. Madame Mahdi était chargée du dossier de la remise à la CPI de l'ancien président Omar El-Béchir. En République démocratique du Congo, le procès de 2 militants de la Lucha ayant accusé la fondation de l'épouse du président Félix Tshisekedi de détournement d'aide s'est ouvert à Goma le 4 juin dernier. Dans un tweet, le mouvement Lucha avait accusé des membres de la fondation Denise Nyakeru d'avoir détourné des vivres destinés aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. Au Nigeria, les forces de sécurité ont libéré vendredi 6 personnes enlevées il y a 3 jours dans une université située près de l'aéroport international d'Abuja. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Toutes les victimes de l'université d'Abuja ont été secourues et ont retrouvé leur famille, a déclaré un porte-parole de la police d'Abuja dans un communiqué. Mardi, des hommes armés se sont introduits dans l'université d'Abuja et ont enlevé des membres du personnel, suscitant des inquiétudes sur la sécurité de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe, à quelques 20 km de là. La police a indiqué que les otages ont été secourus tôt le matin lors d'une opération conjointe de plusieurs agences de sécurité. Depuis plusieurs mois, des gangs de malfaiteurs armés, désignés localement sous le nom de bandits, sèment le trouble, pillant et incendiant des villages et multipliant les enlèvements pour obtenir des rançons, notamment dans les établissements scolaires.
Nigeria toujours, les électeurs de l'État d'Anambra dans le sud-est se rendent aux urnes demain samedi dans le cadre d'un scrutin sous haute tension avant les élections présidentielles prévues dans 18 mois. Plus de 30 000 policiers ont été déployés dans cet État situé dans une région où un mouvement séparatiste du Biafra est accusé d'avoir orchestré une série d'attaques contre les forces de l'ordre et menace de perturber le scrutin si son leader Nnamdi Kanu n'est pas libéré. Nous y reviendrons en seconde partie de ce journal. Au Mali, la justice a fait arrêter le colonel-major Kassoum Goïta, ancien responsable de la sécurité d'État et ancien putschiste, ainsi que plusieurs autres hommes soupçonnés de tentatives de coup d'État. Le procureur d'un tribunal de Bamako a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête à l'encontre du colonel-major Kassoum Goïta pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentatives d'attentats et de complots contre le gouvernement. 5 autres personnes, dont un adjudant-chef et un commissaire de police, sont également visées par les investigations. Le colonel-major Kassoum Goïta faisait partie du groupe d'officiers qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, parmi lesquels son homonyme, le colonel Assimi Goïta, est aujourd'hui l'homme fort du pouvoir. En Ouganda, un tribunal a inculpé 3 hommes pour terrorisme après une tentative d'attentat à la bombe lors des funérailles d'un haut responsable de l'armée en août. Surnommé le lion de Mogadiscio, le général de division Paul Lokesh avait été commandant de la MISSOM en Somalie. Les procureurs ont déclaré que les 3 hommes étaient des membres du groupe rebelle des forces démocratiques alliées, les ADF, qui, selon Kampala, avait planifié l'attaque déjouée par les autorités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après des semaines de tractations et de querelles intestines, la Chambre des représentants se penche ce vendredi sur les plans d'investissement du président Biden qui totalisent 3 000 milliards de dollars. Abdourahmane Dia.
La Chambre basse du Congrès est en session depuis ce matin afin d'examiner les 2 projets sur lesquels Joe Biden compte pour relancer sa présidence. Le premier est une énorme enveloppe pour rénover les routes, ponts et transports vétustes du pays, mais aussi investir dans l'Internet à haut débit et le parc de voitures électriques. Le plan prévoit 1 200 milliards de dollars de dépenses. Ce plan a déjà été approuvé au Sénat mi-août. Son passage à la Chambre pourrait marquer une victoire majeure pour Joe Biden, qui n'aurait plus qu'à ratifier le texte. Le second plan, qui sera examiné à la Chambre basse, est un volet social et climatique qui prévoit l'école maternelle pour tous, une profonde amélioration de la couverture maladie et des investissements significatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Son coût total a déjà été divisé par 2, réduit à 1 750 milliards de dollars contre un chiffre initial de 3 500 milliards de dollars. Si ce texte est validé par les élus de la Chambre ce vendredi, il devra encore être approuvé au Sénat où il risque d'être significativement retouché.
La firme pharmaceutique Pfizer a déclaré vendredi que sa pilule antivirale expérimentale pour le Covid-19 réduit les taux d'hospitalisation et de décès de près de 90% chez les adultes à haut risque. Pfizer se joint à la course pour apporter sur le marché le premier médicament facile à utiliser contre le coronavirus. Les précisions de John Linden.
Les résultats préliminaires de l'étude de Pfizer portant sur 775 adultes ont été publiés aujourd'hui. Les patients qui ont reçu ce médicament avec un autre antiviral peu de temps après avoir présenté des symptômes de COVID-19 ont eu une réduction de 89% de leur taux d'hospitalisation ou des décès après un mois par rapport aux patients prenant une pilule factice. Moins de 1% des patients prenant le médicament ont dû être hospitalisés et personne n'est décédé. Les participants à l'étude n'étaient pas vaccinés et étaient considérés comme à haut risque en raison de problèmes de santé comme l'obésité, le diabète ou les maladies cardiaques. Le traitement a commencé dans les 3 à 5 jours suivant les premiers symptômes et a duré 5 jours. Pfizer a déclaré qu'il demanderait à la FDA et aux régulateurs internationaux d'autoriser sa pilule dès que possible. La pilule COVID-19 du concurrent Merck est déjà en cours d'examen par la FDA. Hier, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à l'accepter.
Alors que la COP26 se poursuit en Écosse, la ville de Pékin en Chine a fermé ses cours de récréation pour cause de pollution atmosphérique au moment où le pays accroît sa production de charbon. Le premier pollueur mondial est sous le feu des critiques du fait de l'absence du président Xi Jinping à la conférence de Glasgow. Des milliers de jeunes ont marché aujourd'hui dans les rues de Glasgow, accusant les grandes ce monde d'inaction face au dérèglement climatique. Deux jours de manifestations sont prévus dans la ville écossaise. En France, le gouvernement prévoit 50 millions d'euros à son budget 2022 pour les réparations promises pour les harkis par le président Emmanuel Macron. Un projet de loi spécifique est attendu à l'Assemblée nationale le 18 novembre. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, M. Macron avait demandé pardon aux harkis et annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation envers ces Algériens qui avaient combattu aux côtés de l'armée française. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est engagé ce vendredi à faire toute la lumière sur le syndrome de la Havane, un mal mystérieux qui frappe des diplomates américains à travers le monde, parfois comparé à des attaques acoustiques imputées par certains à la Russie. Ces incidents de santé anormaux, comme ils sont appelés dans le jargon administratif, ont fait leur apparition pour la première fois à Cuba en 2016, où des diplomates américains, après avoir entendu des sons très aigus, ont commencé à se plaindre de fortes migraines, vertiges ou nausées. Des lésions cérébrales ont même été diagnostiquées. Depuis, des cas ont été successivement signalés en Chine, en Allemagne, Australie, Russie, Autriche et même à Washington. Toujours ici aux États-Unis, le marché du travail s'est redressé en octobre, rebondissant après la vague Delta du Covid-19 et malgré le manque de travailleurs. Le taux de chômage a reculé de 0,2 points par rapport à septembre pour tomber à 4,6%, encore loin cependant des 3,5% d'avant la crise, a annoncé aujourd'hui le département du travail. 531 000 emplois ont été créés en octobre, secteur public et privé confondu, quasiment deux fois plus qu'en septembre. Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'acte 8 du Tour cycliste international du Faso s'est disputé aujourd'hui. Entre Coubry et Pau, 122 km, l'Allemand Mario Vogt a enlevé cette huitième étape devant son compatriote et coéquipier Herman Keller. Le Burkinabé Paul Domo complète le podium du jour. Vainqueur de la cinquième étape, l'autre Allemand Daniel Bilschmann récupère le maillot jaune qui était passé hier sur les épaules du Marocain Mohsin El Khouraji. Demain, la neuvième étape conduira le peloton de Manga à Zinyaré, 124,6 km, avant le dernier assaut prévu entre Kongoussi et Ouagadougou, 129,5 km, dont un critérium de 5,4 x 10 km à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Un supporter de Chelsea, auteur de tweets antisémites et racistes à destination des fans de Tottenham, a été condamné à 8 semaines de prison ferme à Londres. Le jeune homme de 21 ans a publié sur Twitter une photo des rails conduisant au camp de concentration d'Auschwitz avec la mention « Les Spurs sont en route pour Auschwitz ». Selon les auditions du tribunal, le jeune homme qui s'est défendu devant la police en expliquant que les publications étaient une blague entre potes a plaidé coupable pour 7 chefs d'accusation. Selon Mavie Thornton, son avocat, il a quitté Tudor et a exprimé de profonds remords. Le 3 novembre, un supporter anglais qui s'était filmé en train de proférer des insultes racistes à l'encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, après la finale perdue de l'Euro 2020, a été condamné à 10 semaines de prison à Londres. Attendu comme le Messie, l'ancienne gloire du FC Barcelone, Xavi Hernandez, va prendre bientôt la relève de Ronald Koeman. Le club qatari d'Al-Sadd, que Xavi entraînait depuis 2019, a annoncé avoir trouvé un accord avec les Catalans pour le retour au bercail de l'ancien milieu de terrain. Il va remplacer Sergi Borwan, qui assure l'intérim. Après avoir quitté Barcelone en 2015, le génial milieu de terrain a pris la direction d'Al-Sadd au Qatar, où il a fini sa carrière de joueur de 2015 à 2019, avant d'entamer une reconversion immédiate comme entraîneur. Après deux années à la tête du club qatarien, il a remporté le championnat, la Coupe nationale et la Supercoupe du Qatar. NBA, les Lakers sans LeBron James ont perdu contre Oklahoma City 104-107. La journée s'est mieux finie qu'elle n'a commencé à Phoenix, où le propriétaire de la franchise Robert Savers fait face à des allégations de racisme et de sexisme proférées dans une enquête d'ESPN. Le dirigeant nie en bloc, mais la NBA a décidé de s'emparer de l'affaire et a ouvert une enquête. L'équipe d'Arizona est tout de même parvenue à se concentrer sur le parquet sans trop de difficultés face aux Rockets qu'elle a battu 123-111. Philadelphie a dominé Détroit 109-98 avec 19.9 rebonds de Joel Embiid. Boston a surpris Miami sur son parquet 95-78.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Une délégation composée des partis politiques et de la société civile a participé à une rencontre du 27 au 28 octobre 2021 à Genève, aux côtés des Tchadiens de la diaspora et des politico-militaires sur la situation au Tchad. La rencontre a débouché sur une déclaration commune, dite de Genève, et l'élaboration de la charte de transition qui sera soumise au Conseil militaire de transition et aux partenaires pour une transition apaisée. Un document qui n'est pas du goût des autorités de N'Djamena. André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
La charte de transition adoptée à Genève prévoit la mise en place d'un conseil républicain de transition qui sera composé de 15 membres.
Ce conseil va travailler dans 3 mois qui arrivent à mettre en place ce que nous avons appelé une conférence nationale inclusive souveraine, qui est un organe. Puisque dans la charte actuelle que nous avons aujourd'hui au Tchad, même la question de dialogue, la question de la conférence n'y est même pas inscrite. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas ni l'ancrage juridique, institutionnel, ni politique.
Docteur Sita Kiyombatina Beni, membre de la délégation tchadienne qui a pris part à la rencontre de Genève, le même document prévoit également un gouvernement de transition avec la désignation d'un premier ministre qui sera doté de tout pouvoir et la mise en place du Conseil national de transition qui fera office de parlement pour organiser les élections libres, transparentes et démocratiques. Pour Abdramane Koulama, la ministre de la Communication, le gouvernement de transition a d'autres priorités.
Vous voulez que le porte-parole du gouvernement perde tous les jours son temps à répondre à ces épiphénomènes? Ils sont combien et quelle légitimité ils tirent pour mettre en place une charte de transition? Ils seraient bien inspirés de venir avec leurs amis ici, même si je suis en désaccord avec leur lutte, mais au moins ils sont dans leur pays. C'est très facile de rester en Europe et de dire on va faire une charte pour les Tchadiens qui sont ici. Nous ne perdrons jamais notre temps à répondre à ces épiphénomènes qui se disent qu'ils vont refaire le monde alors qu'ils ne sont pas capables. Vous leur confiez la garde d'une chèvre, ils la perdront.
Parlant de chèvre comme pour le berger et la bergère, le constitutionnaliste Ahmad Mohamed Hassan répond.
C'est dommage, nous parlons de dialogue, aucun Tchadien n'est à négliger. Le ministre ne doit pas parler comme ça. Il s'agit de redéfinir les nouvelles conditions de un Tchad nouveau. Alors, c'est leur souhait. Ils ont proposé des choses importantes et intéressantes. La démarche serait une sorte de conférence nationale souveraine bis qu'on va accoucher d'un projet, d'un texte qu'on va appeler la charte de transition. Et les grandes lignes qui devaient aboutir à la future constitution du Tchad qui sera le nouveau contrat social qui sera soumis au référendum. C'est la démarche que nous avons adoptée à la conférence nationale souveraine en 93. C'est cette démarche-là que nous devons adopter. C'est dommage que le ministre dise qu'ils n'ont aucune légitimité. Je ne sais pas comment le ministre comprend le mot inclusif.
Pour Dr Sita Kiyombatina Beni, l'un des acteurs de ce projet, si cette charte de transition n'est pas prise en compte, des actions de désobéissance civile seront menées dans les jours à venir.
Nous n'avons pas un dialogue en ce moment pour légitimer en ce moment un pouvoir clanique qui est mis en place, pour légitimer en ce moment la junte qui est au pouvoir, et nous allons mettre en place toute une sorte d'actions et avec toute la diaspora qui est engagée, qui est vent debout pour soutenir les Tchadiens et les Tchadiennes, pour faire en sorte que des actions de désobéissance civile, mais de résistance, n'est-ce pas, nationale, entre en ligne de gens pour contraindre, n'est-ce pas, la junte actuellement à pouvoir passer la main et à remettre le pouvoir aux civils.
Plusieurs formations politiques et organisations de la société civile dénoncent la procédure avec laquelle le comité d'organisation de ce dialogue se prépare pour cette messe politique. André Kodomadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Au Nigeria, la tension est vive dans l'état d'Anambra, dans le sud-est, la veille de l'élection du gouverneur prévue demain samedi. Un scrutin crucial pour le parti au pouvoir et pour l'opposition. Le mouvement séparatiste IPOB, peuple indigène du Biafra, menace de perturber le déroulement si son leader, Nnamdi Kanu, n'est pas libéré. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
La police a interdit tout mouvement dans l'état d'Anambra pour les prochaines 24 heures. Plus de 30 000 policiers ont été déployés. L'un des trois favoris, l'ancien chef de la banque centrale, Charles Chukwuma Soludo, a été la cible d'hommes armés. Il se présente pour la All Progressive Grand Alliance, qui gouverne cet état du sud-est depuis plus d'une décennie. Cette domination est contestée par le parti au pouvoir APC du président Muhammadu Buhari et le principal parti d'opposition, le PDP. Des violents incidents durant la campagne ont amené la Commission nationale de paix dirigée par l'ancien président Aboubakar Salami à faire le déplacement pour faire signer un accord de bonne conduite entre les candidats.
Les membres de la Commission nationale de paix sont venus dans l'état d'Anambra pour apporter leur soutien à un processus électoral pacifique. Nous aimons l'état d'Anambra et nous sommes partisans pour la paix et l'unité du Nigeria.
La Commission nationale électorale indépendante affirme sa détermination d'organiser des élections crédibles demain. Mahamoud Yakubu, président de la CENI.
Je lance un appel à tous les partis, les candidats et les autres acteurs de jouer un rôle au respect de l'accord de paix signé. Sans la paix, tous ces plans de déploiement, des nouvelles innovations pour notre système électoral, la sécurité du personnel et du matériel électoral, des observateurs et la crédibilité de l'élection sera mise en doute.
Des centaines de véhicules effectuent des patrouilles. Les autorités fédérales n'ont pas hésité à déployer un dispositif impressionnant pour assurer la sécurité. L'inspecteur général adjoint de la police pour la région du Sud-Est, Joseph Ebunike, met en garde les éventuels fauteurs de troubles.
La seule chose que je peux vous assurer est que la police, l'armée et toutes les autres agences de sécurité déployées dans l'état d'Anambra resteront calmes, strictes et professionnelles.
Les séparatistes biafrais qui réclament la libération de leur leader Nnamdi Kanu menacent de perturber le scrutin. C'est un autre test de crédibilité avant la présidentielle dans moins de 18 mois. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Afrique du Sud, depuis la fin de l'apartheid en 1994, l'ANC au pouvoir est passé pour la première fois en dessous de la barre des 50% des voix lors d'un vote. C'est un résultat très décevant pour le président Cyril Ramaphosa, qui s'est exprimé jeudi soir lors de l'annonce du résultat des élections. Les gens veulent des élus locaux qui soient efficaces, a-t-il reconnu. Le point avec notre correspondante Valérie Hirsch à Johannesburg.
Le Congrès national africain, l'ANC, n'a obtenu que 46% des voix au municipal de lundi contre 54% lors du dernier scrutin. Le parti au pouvoir avait déjà perdu le contrôle de trois métropoles, Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth en 2016. Cette fois-ci, il a en plus chuté de 56% des voix à 42% dans le port de Durban. Il a aussi perdu le contrôle de nombreuses petites municipalités. Pour l'analyste Suzanne Bosen, près de trois décennies de mauvaise gestion des services municipaux ont pesé lourd dans le choix des électeurs.
C'est un grand sentiment de déception vis-à-vis des gouvernements locaux et la façon dont ils ont été mal gérés. Je pense que les gens sont vraiment révoltés.
Le taux de participation a chuté de 58 à 46%. Il n'a jamais été aussi bas, ce qui montre le désenchantement de l'électorat vis-à-vis du parti au pouvoir. L'Alliance démocratique, le DIE, principal parti d'opposition, a gardé la ville du Cap, mais a baissé dans le pays de 27 à 22% des voix, sans doute en raison de ces dissensions internes. Dans un tiers des municipalités, aucun parti n'arrive en tête. Le DIE a annoncé hier soir qu'il ne gouvernerait pas avec l'ANC. Les deux principales formations vont donc se disputer le soutien des petits partis pour pouvoir former des coalitions. Ces derniers ont gagné des voix, notamment les combattants de la liberté de Julius Malema, passés de 8 à 10% des suffrages. Le mauvais résultat de l'ANC risque d'affaiblir Ramaphosa dans sa partie de bras de fer avec les supporters de l'ancien président Jacob Zuma. Ses efforts pour renouveler l'ANC et nettoyer le parti de la corruption ont sans doute été trop tardifs et trop timides pour le directeur de la présidence, Sibongile Besani. Il faut donc accélérer le mouvement.
On va dans la bonne direction, mais il faut montrer plus de vigueur et d'agilité. Il faut faire en sorte que ce soit rapide, immédiat et que cela entraîne plus de confiance. Une fois qu'on y arrivera, je pense qu'on pourra regagner le terrain perdu.
La prochaine échéance est le congrès de l'ANC l'an prochain, qui doit se prononcer sur la reconduction de Cyril Ramaphosa pour un second mandat et ensuite les législatives de 2024. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Un putsch le 25 octobre a abouti à la dissolution du gouvernement censé assurer la transition vers la démocratie et à l'arrestation de la majorité des civils, dont le premier ministre Abdallah Hamdok. Samedi dernier, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues pour réclamer le rétablissement du gouvernement civil. Des négociations sont en cours, mais ce retour au pouvoir des militaires rappelle des périodes sombres. Reportage à Khartoum de notre correspondante Patricia Huon.
Ils sont quelques dizaines dans le quartier de Bari, au nord de Khartoum, à crier leur frustration. Ils réclament que les militaires libèrent le premier ministre Abdallah Hamdok et réinstaurent immédiatement un gouvernement civil.
Nous voulons un gouvernement démocratique et civil. Nous ne voulons pas retourner à un régime militaire. Nous voulons qu'Hamdok revienne. Et selon ses conditions, pas celles de Burhan.
En avril 2019, le président soudanais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 3 décennies, a été destitué et arrêté sous la pression de la rue et de l'armée. Mais un peu plus de 2 ans plus tard, c'est un nouveau coup de force des militaires. Unilatéralement, ceux-ci ont rompu leur pacte avec les civils et ont mis la main sur le pouvoir.
Nous ne pouvons pas arrêter, parce que si nous arrêtons, c'est eux qui gagnent. Nous sommes revenus au même point, mais nous n'avons pas d'autre choix que de recommencer. C'est tout ce que nous pouvons faire maintenant. Nous pensons que cela va marcher parce que ça a déjà marché une fois avec des gens beaucoup plus forts.
Dès l'annonce du coup d'État le 25 octobre, des milliers de Soudanais se sont précipités dans les rues du pays pour protester. Yasser Mohamed Ali, la cinquantaine, était présent ce jour-là à Bari. Il est aujourd'hui allongé sur un lit d'hôpital où il se remet d'une opération de la colonne vertébrale. Un véhicule militaire lui a roulé dessus à 2 reprises, en avant puis en arrière.
Mes jambes, je ne les sens plus. Le médecin m'a dit que je devrais remarcher, mais là, je ne sens plus rien. Tout ce que je voudrais, c'est la liberté, la paix et la justice.
À Khartoum, ces mots, slogans de la révolution, sont souvent prononcés. Mais l'espoir a fait place à la lassitude. Mohamed Ebed gère une boîte de production dans la capitale soudanaise. Il a activement pris part à la contestation du régime de Omar el-Béchir. Aujourd'hui, il n'est plus certain d'avoir la force de recommencer.
Ce que nous redoutions, c'est passé et c'est arrivé tellement vite. C'est un coup dur et je pense que les gens ne savent pas comment résister. Nous voulons voir des vrais progrès, un changement, mais il y a ce sentiment que ça va être un cycle infini de manifestations et des gens ont abandonné.
Hier, dans quelques quartiers de la capitale, de petits groupes de manifestants déterminés scandaient que le peuple est le plus fort, le retour en arrière impossible. Mais dans la partie d'échecs qui se joue, les militaires ont pris l'avantage. À Khartoum, Patricia Huon pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Michel Joseph et Lionel Gaïma qui ont permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.